Ivanhoé, chapitre 3. Dans une salle, dont la hauteur était loin de correspondre à la largeur et à la longueur, une immense table de chêne, composée de planches empruntées à la forêt, rudement taillées et ayant à peine reçu le moindre poli, était disposée à recevoir le souper de Cédric le Saxon. Le toit, composé de grandes et de petites poutres, n'avait que les planches et le chaume pour séparer l'appartement du ciel. À chaque extrémité de la salle flambait un grand feu. Mais, comme les cheminées étaient très grossièrement construites, autant de fumée, pour le moins, passait par la salle qu'il s'en échappait par l'ouverture destinée à lui donner passage. La vapeur continuelle qui s'ensuivait avait verni les poutres de cette salle basse, en les couvrant d'une couche de suie noire et luisante. Sur les deux autres faces de la salle étaient pendus des instruments de guerre, et dans tous les angles, des portes battantes conduisaient aux diverses parties du gigantesque bâtiment. Les autres divisions de la maison affectaient cette rude simplicité de l'époque saxonne, simplicité que Cédric se piquait de maintenir. Le parquet se composait de terre mêlée de chaux, endurci par le tassement, comme on le voit souvent dans les aires de nos granges modernes. Sur un quart environ de la longueur de la salle, le parquet s'élevait d'un degré, et cet espace, que l'on appelait le dais, était occupé par les chefs de famille et les visiteurs de distinction. Dans cette intention, une table, richement couverte de draps écarlates, était placée transversalement sur la plateforme, et de son point milieu partait une table plus longue et plus basse, à laquelle mangeaient les domestiques et les gens de condition inférieure. Et cette table s'étendait jusqu'au bout de la salle. Le tout ensemble avait la forme d'un T, ou bien celle de ces anciennes tables dînatoires, qui, rangées d'après le même principe, se rencontrent encore dans les vieux collèges d'Oxford et de Cambridge. Des chaises et des divans de bois de chêne sculptés étaient placés sur la plateforme, et au-dessus de ces sièges et de la table élevée était attaché un dais de drap qui servait en quelque sorte à protéger les dignitaires occupant les places d'honneur contre le mauvais temps et surtout contre la pluie, qui en quelques endroits se frayait un passage à travers le toit délabré. Les murs de cette extrémité supérieure de la salle, sur toute l'étendue de la plateforme, étaient couverts de tentures et de tapisseries, et sur le parquet s'étendait un tapis. Tapis et tapisseries étaient ornés de quelques essais de broderie exécutés avec des couleurs brillantes, trop brillantes même. Sur la table basse, le toit, comme nous l'avons dit, n'avait point de couverture. Les murs rudement plâtrés restaient nus, et le parquet de terre raboteux était sans tapis. Il n'y avait point de nappe sur cette table, et des bancs grossiers et lourds remplaçaient les chaises. Au centre de la table d'honneur étaient deux chaises plus élevées que les autres, destinées au maître et à la maîtresse de la maison, qui présidaient à la scène hospitalière, et en faisant ainsi, ils méritaient le titre de « partageur de pain ». Titre d'honneur chez les Saxons. À chacune de ces deux chaises, on ajoutait un tabouret curieusement sculpté et incrusté d'ivoire, marque de distinction qui lui était particulière. Une de ces chaises était occupée en ce moment par Cédric le Saxon, qui, bien qu'il n'eût que le nom de Tan ou de Franklin, comme l'appelaient les Normands, éprouvait du retard de son souper une impatience qui eût fait honneur à un bailli des temps anciens ou modernes. Il était visible, à la contenance du maître, qu'il était d'un caractère franc mais impétueux et irascible. Sa taille ne dépassait point la moyenne, mais il avait les épaules larges, les bras longs, et était vigoureusement bâti, comme un homme habitué à braver les fatigues de la guerre et de la chasse. Sa figure était large, ses yeux grands et bleus, ses traits ouverts et francs, ses dents belles et sa tête bien proportionnée. Le tout ensemble exprimait ce genre de bonne humeur qui souvent se trouve accompagné d'un caractère vif et brusque. dans ses yeux, brillaient l'orgueil et la méfiance, car sa vie s'était écoulée à soutenir ses droits, que l'on envahissait perpétuellement. Et la disposition prompte, fougueuse et résolue de l'homme avait toujours été maintenue par les circonstances de sa position. Sa longue et jaune chevelure, partagée au milieu du front et sur le sommet de la tête, retombait de chaque côté jusque sur ses épaules. Elle grisonnait à peine, bien que Cédric approchât de la 60e année. Son costume se composait d'une tunique verte, fourrée au col et aux poignets avec du menu vert, sorte de fourrure inférieure en qualité à l'hermine, et provenant, à ce que l'on croit, de la peau de l'écureuil gris. Cette jaquette pendait sans être boutonnée par-dessus un pourpoint collant et de couleur écarlate, serrant le corps. Il portait des trousses de la même étoffe qui descendaient à peine au bas de la cuisse, laissant le genou nu. Ses pieds étaient chaussés de sandales de la même forme que celles des paysans, mais de matière moins grossière, et attachés sur le devant par des agrafes d'or. Il portait au poignet des bracelets d'or et un large collier de ce précieux métal autour du cou. Sa taille était serrée par une ceinture richement cloutée, dans laquelle était fixée une épée courte, droite et à deux tranchants, avec une pointe aiguë, et placé de manière à tomber verticalement à son côté. Derrière la chaise était suspendu un manteau de drap écarlate, doublé de fourrure. Enfin, un bonnet des mêmes matières, et richement brodé, complétait l'habillement du riche tan quand il lui convenait de sortir. Un petit épieu à sanglier, avec une pointe large et en acier brillant, était appuyé au dos de sa chaise. Il s'en servait, lorsqu'il quittait la maison, tantôt comme d'un bâton, tantôt comme d'une arme, selon le hasard qui le forçait d'y avoir recours. Plusieurs domestiques, dont le costume marquait plusieurs degrés différents entre la richesse de celui de leur maître et le vêtement simple et grossier de Gert le porcher, épiaient les regards du dignitaire saxon et attendaient ses ordres. En outre, deux ou trois serviteurs d'un rang plus élevé se tenaient sous le dais derrière leur maître. Les autres étaient distribués dans la partie inférieure de la salle. Deux ou trois grands lévriers aux poils rudes, tels qu'on en employait à chasser le loup et le cerf, serviteurs d'une autre espèce. Un nombre égal de chiens, d'une race puissante et osseuse, au cou épais et aux têtes larges, aux longues oreilles, et un ou deux plus petits, qu'on appelle aujourd'hui des terriers, attendaient avec impatience l'arrivée du souper. Mais avec cette connaissance sagace de la physionomie, connaissance particulière à leur race, ils se gardaient bien de rompre le rogue silence de leur maître, craignant probablement un petit bâton blanc qui était posé à côté de l'assiette de Cédric pour repousser les avances de ses serviteurs à quatre pattes. Un chien loup, vieux et grisonnant, seul, avec l'aplomb d'un préféré, s'était campé tout à côté de la chaise d'honneur et sollicitait de temps en temps l'attention du maître en posant sa grosse tête velue sur son genou et en poussant son museau dans sa main. Mais celui-ci même fut repoussé par l'exclamation sévère de « Ah bah, Balder, ah bah, je ne suis pas disposé à tes folies !» En effet, Cédric, comme nous l'avons fait observer, n'était pas d'une humeur très gracieuse. Lady Rowena, qui s'était absentée pour entendre l'office du soir dans une église éloignée, venait seulement de rentrer et changer de vêtements, les siens ayant été mouillés par l'orage. De plus, on n'avait encore aucune nouvelle de Gert et de ses pourceaux, qui depuis longtemps auraient dû être rentrés de la forêt. Et le peu de sécurité de l'époque était tel qu'elle suffisait à faire craindre que ce retard ne provînt de quelque déprédation de la part des outlaws qui remplissaient la forêt, ou d'un coup de main de quelque baron voisin qui, connaissant sa force, violait les droits de la propriété. Ce sujet était grave, car la plus grande partie des richesses domestiques des propriétaires saxons se composait de nombreux troupeaux de porcs, et cela surtout dans le voisinage des forêts, où ces animaux trouvaient aisément leur pâture. Outre ces motifs d'inquiétude, le Tan saxon désirait la présence de son bouffon favori, Wamba, dont les plaisanteries, telles qu'elles étaient, bonnes ou mauvaises, servaient à assaisonner le repas du soir et les grands coups d'ail et de vin dont il avait coutume de l'arroser. Ajoutez à tout cela que Cédric était à jeun depuis midi, et que l'heure habituelle de son souper était passée depuis longtemps, sujet d'irritation commun au gentilhomme campagnard, et dans les temps anciens et dans les temps modernes. Son déplaisir se manifestait par des phrases entrecoupées, en partie murmurées entre ses dents, en partie adressées aux domestiques, qui se tenaient autour de lui, et particulièrement à son échanson, qui lui présentait de temps en temps, en manière de calmant, un gobelet d'argent rempli de vin. « Pourquoi tarde donc Lady Rowena ?»« Elle ne fait que changer de coiffure, » répondit un domestique femelle, avec cet aplomb que montre habituellement de nos jours la femme de chambre favorite d'une lady en répondant au maître de maison. « Vous ne voulez pas qu'elle s'assoie à table avec sa mante. Il n'y a pas de dame dans tout le comté qui s'habille plus lestement que ma maîtresse. » Cet argument sans réplique produisit une espèce de « hum » d'acquiescement de la part du Saxon, qui ajouta « J'espère que ses dévotions feront choix d'un temps plus beau lors de sa prochaine visite à l'église de Saint-Jean. Mais qu'est-ce qui, au nom de dix diables ?» continua-t-il, se tournant du côté de l'échanson et élevant la voix, heureux d'avoir trouvé une issue pour laisser déborder sa colère, sans crainte et sans contrôle. « Mais qu'est-ce qui, au nom de dix diables, retient Gert si tard dans les champs? Je suppose que nous allons avoir un mauvais rapport sur le troupeau. Il a coutume d'être, cependant, un fidèle et prudent serviteur, et je le destinais à quelque chose de mieux. Peut-être en eussé-je même fait un de mes gardes ?» Oswald, l'échanson, fit modestement observer qu'il y avait à peine une heure d'écoulée depuis la sonnerie du couvre-feu. Excuse mal choisie, en ce qu'elle portait sur un sujet si discordant aux oreilles saxonnes. « Que le diable emporte !» s'écria Cédric. « Le couvre-feu, le tyrannique bâtard qu'il a institué, ainsi que l'esclave sans cœur qui le nomme, avec une langue saxonne à une oreille saxonne. « Le couvre-feu » répéta-t-il. « Oui, le couvre-feu, qui force les honnêtes gens à éteindre leur lumière, afin que les voleurs et les bandits puissent travailler dans les ténèbres. Oui, le couvre-feu. Réginald Front de Bœuf et Philippe de Malvoisin connaissaient l'emploi du couvre-feu aussi bien que Guillaume le Bâtard lui-même, ou que tout autre aventurier normand qui ait combattu à Hastings. Je vais apprendre, je le devine, que mes bestiaux ont été enlevés pour arracher à la fin les bandits voraces que leurs maîtres ne peuvent entretenir qu'à l'aide du vol et du brigandage. Mon fidèle esclave est assassiné, et mes troupeaux emmenés comme une proie. Et Wamba? Où est Wamba? Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il était sorti avec Gert? Oswald répondit affirmativement. Bon, voilà qui va de mieux en mieux. On l'a emmené aussi, le fou saxon, pour servir le seigneur normand. Nous sommes tous des fous, à la vérité, de les servir. Et nous sommes des êtres plus dignes de leur mépris et de leur raillerie que si nous étions nés avec la moitié seulement de notre intelligence. « Mais je veux me venger, » ajouta-t-il en s'élançant de sa chaise avec impatience sur le seul soupçon de cette injure et en saisissant son épieu. « Je veux aller porter ma plainte devant le Grand Concile. J'ai des amis, j'ai des vassaux. Homme à homme, je défierai le Normand au combat. » Qu'il vienne avec sa cuirasse et sa cotte de maille, et tout ce qui sert à donner du courage à la couardise. J'ai envoyé un javelot comme celui-ci au travers d'un obstacle trois fois plus solide que leur bouclier de guerre. Peut-être me juge-t-il vieux, mais je leur apprendrai, tout seul et sans fils, comme je me trouve, que le sang de Hereward est dans les veines de Cédric. Ah, Wilfrid, Wilfrid ! S'écria-t-il en baissant la voix. Si tu avais su régler ta passion insensée, ton père ne serait pas délaissé dans sa vieillesse comme le chêne solitaire qui laisse pendre ses branches brisées et sans appui au souffle de la tempête. » Cette dernière réflexion parut, par sa tristesse, conjurer ses sentiments irrités. Replaçant son javelot derrière sa chaise, il reprit sa place, tourna ses yeux vers la terre et sembla se laisser aller à de mélancoliques pensées. Cédric était plongé dans ses rêveries quand il en fut tout à coup tiré par le son retentissant d'un cor, auquel répondirent les cris et les aboiements bruyants de tous les chiens présents dans la salle, ainsi que de 20 ou 30 autres disséminés dans les diverses parties du bâtiment. Il fallut un bon emploi du bâton blanc, assisté des efforts des domestiques, pour réduire au silence ces clameurs canines. « Allez à la porte, mes drôles !» dit le Saxon brusquement. Aussitôt que le tumulte fut assez apaisé pour que les serviteurs puissent entendre sa voix, « Voyez quelle nouvelle ce corps nous annonce. Je ne doute pas que ce ne soit celle de quelque vol et de quelque rapine exercée sur mes terres. » Mais, revenant en moins de 3 minutes, un garde annonça que le prieur Aymer de Jorvaux et le bon chevalier Brillant de Bois-Guilbert, commandeur de l'ordre vénérable et vaillant des chevaliers du Temple, avec une petite suite, demandaient l'hospitalité et le gîte pour la nuit, vu qu'ils étaient en route pour un tournoi qui devait se tenir dans 2 jours, non loin d'Ashby de la Zouche. Aymer ? Le prieur Aymer ? « Le commandeur Brillant de Bois-Guilbert ?» murmura Cédric. « Tous deux Normands ? Mais que ce soit des Normands ou des Saxons, il ne faut pas que l'on mette en doute l'hospitalité de Rottenwood, et ils sont les bienvenus puisqu'il leur a plu de s'arrêter. Ils eussent été mieux venus encore s'ils avaient voulu continuer leur route. Mais il serait indigne de nous de murmurer pour le gîte et la nourriture d'une nuit. » En qualité d'hôte, au moins, les Normands même sont obligés de contenir leur insolence. « Allez, Humbert » ordonna-t-il à une espèce de majordome qui se tenait devant lui avec une baguette blanche. « Prenez 6 domestiques et introduisez ces étrangers au logement des hôtes. Qu'on soigne leurs chevaux et leurs mules et que leur suite n'ait besoin de rien. Qu'on leur donne des vêtements de rechange, s'ils en désirent, du feu et de l'eau pour se laver, ainsi que du vin et de l'ale. Ordonnez aussi au cuisinier d'ajouter à la hâte quelque chose à notre repas du soir, et qu'on le serve sur la table aussitôt que ces étrangers seront prêts à le partager avec nous. Dites-leur, Humbert, que Cédric lui-même leur souhaiterait la bienvenue en personne, mais qu'il a fait vœu de ne jamais s'éloigner de plus de 3 pas de son siège d'honneur, pour aller au-devant de ceux qui ne sont pas du sang royal saxon. Partez, faites qu'on ait grandement soin d'eux, qu'ils ne disent pas dans leur orgueil que le rude Saxon a montré à la fois sa pauvreté et son avarice. » Le majordome sortit, avec plusieurs serviteurs, pour exécuter les ordres de son maître. « Le prieur Aymer !» répéta Cédric, se tournant du côté d'Oswald. « C'est, si je ne me trompe, le frère de Gilles de Molverer, maintenant seigneur de Middleham. » Oswald fit un signe respectueux d'assentiment. « Son frère est assis à la place et usurpe le patrimoine d'une meilleure race, celle d'Œufgard de Middleham. Mais où est le seigneur normand qui n'en ferait pas de même? Ce prieur est, comme on dit, un prêtre franc et gaillard, qui préfère la coupe et le corps à la cloche et au missel. C'est bien. Qu'il vienne, il sera le bienvenu. Comment avez-vous nommé le Templier ?
Brian de Bois-Guilbert.
Bois-Guilbert, dit Cédric, toujours du ton rêveur et réfléchi que l'habitude de vivre avec des inférieurs l'avait accoutumé à prendre, et qui le faisait ressembler à un homme parlant à soi-même plutôt qu'à ceux qui l'entourent. Bois-Guilbert. Ce nom a été répandu au loin pour le bien et le mal. On dit qu'il est aussi vaillant que les plus braves de son ordre, mais souillé de leurs vices ordinaires.
l'orgueil, la cruauté, l'arrogance et la volupté. Un homme implacable, qui ne craint ni ciel ni terre. Ainsi dit le petit nombre de guerriers qui sont revenus de Palestine. Eh bien, ce n'est que pour une nuit. Il sera donc aussi le bienvenu. Oswald, mettez en perse le baril de notre vin le plus vieux. Servez sur la table le meilleur hydromel, l'ale la plus forte, le plus riche morat, le cidre le plus mousseux, les pigments les plus odorants. Remplissez les cornes les plus vastes. Les templiers et les abbés aiment le bon vin et la bonne mesure. Elgitta, dites à Lady Rowena que ce soir, nous ne l'attendrons pas dans la salle. À moins que ce ne soit son bon plaisir.
Ce sera son bon plaisir, répondit vivement Elgitta, car elle est toujours avide d'entendre les dernières nouvelles de la Palestine.
Cédric lança à la demoiselle impertinente un regard de prompt ressentiment. Mais Rowena et tout ce qui lui appartenait avaient des privilèges et étaient à l'abri de sa colère. Il se contenta donc de répliquer « Tais-toi, jeune fille, ta langue devance ta discrétion. Rapporte mon message à ta maîtresse et qu'elle fasse ce que bon lui semblera. Ici, au moins, celle qui descend d'Alfred règne toujours en princesse. » Elgitta quitta l'appartement.
« Palestine !» répéta le Saxon. « Palestine ! Combien d'oreilles sourdes aux histoires que des croisés dissolus ou des pèlerins hypocrites apportent de cette terre fatale ! Moi aussi je pourrais demander, moi aussi je pourrais questionner, moi aussi je pourrais écouter avec un cœur palpitant les fables que des vagabonds rusés inventent pour nous escroquer l'hospitalité. Mais non, le fils qui m'a désobéi n'est plus mon fils, et je ne veux pas m'occuper de son sort plus que de celui du dernier vaurien perdu parmi les millions de bandits qui ont porté la croix sur leur épaule et qui se sont livrés aux excès et au carnage, tout en disant qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu. » Et son front se rida, et pendant un moment il fixa ses regards sur la terre. Lorsqu'il leva les yeux, la porte, située à l'extrémité de la salle, s'ouvrit à deux battants, et, précédée du majordome armé de sa baguette et de quatre domestiques portant des torches allumées, les convives du soir firent leur entrée dans la salle.
Chapitre 4. Le prieur Aymer avait profité de l'occasion qu'on lui offrait pour changer son costume de cheval contre un autre d'une étoffe encore plus riche, par-dessus lequel il portait un mantelet de prêtre curieusement brodé. Outre le gros anneau abbatial d'or qui indiquait sa dignité cléricale, ses doigts, contrairement au canon de l'église, étaient chargés de joyaux précieux. Ses sandales étaient faites du plus beau cuir d'Espagne. Sa barbe était réduite à d'aussi petites dimensions que son ordre le permettait. Et son crâne rasé se cachait sous un bonnet écarlate, richement brodé. L'extérieur du chevalier du temple était aussi changé. Et bien qu'il fût moins coquettement paré, son costume était aussi riche et son aspect bien plus imposant que celui de son compagnon. Il avait changé sa cotte de maille contre une veste de soie pourpre foncé, garnie de fourrure, sur laquelle flottait, en plis abondants, sa longue robe entièrement blanche. La croix à 8 pointes de son ordre se découpait en velours noir sur son épaule. Son haut bonnet ne cachait plus ses sourcils, qui ne se trouvaient abrités que par sa courte et épaisse chevelure bouclée d'un noir de jais, laquelle s'allait à merveille avec son teint sombre comme la nuit. Rien ne pouvait être plus gracieusement majestueux que sa démarche et ses manières, si tout cela n'eût été empreint d'un air de hauteur impérieuse que l'on acquiert facilement par l'habitude d'une autorité sans contrôle. Ces deux dignitaires étaient suivis de leurs serviteurs respectifs, et, à une plus humble distance, venait leur guide, dont la personne n'avait de remarquable que ce qu'elle empruntait à la défroque misérable d'un pèlerin. Un rude manteau de serge noire l'enveloppait entièrement, et ressemblait un peu, par la forme, au manteau d'un moderne hussard ayant des pans pour cacher les bras. On appelait cette sorte de manteau un sclavonien. Des sandales grossières, attachées avec des lanières sur ses pieds nus, un chapeau à large bord, avec des coquilles cousues tout autour, et un long bâton ferré, à l'extrémité duquel était attachée une branche de palmier, complétait le costume du pèlerin. Il venait modestement le dernier du cortège qui entra dans la salle, et remarquant que la table basse laissait à peine assez d'espace aux domestiques de Cédric et à la suite des deux convives, il alla s'asseoir sur une banquette placée à côté et presque au-dessous d'une des grandes cheminées, et là sembla s'occuper à sécher ses vêtements jusqu'à ce qu'un des hôtes, en se retirant, lui fît une place à la table, ou que l'hospitalité du majordome lui procura des vivres à la place même qu'il avait choisie. Cédric, pour recevoir ses hôtes, se leva avec un air d'hospitalité courtoise, et, quittant sa place élevée, il fit trois pas au-devant d'eux et attendit leur approche. « Je suis désolé, dit-il, révérend prieur, que mon vœu m'oblige à ne pas avancer davantage sur ce parquet de mes ancêtres, même pour recevoir des hôtes tels que vous et ce vaillant chevalier du temple. » Mais mon majordome vous aura sans doute expliqué la cause de mon impolitesse apparente. Laissez-moi vous prier aussi de m'excuser si je vous parle dans ma langue maternelle, en vous invitant à me répondre dans cet idiome, si vous le connaissez. Je comprends assez le normand pour suivre vos pensées. « Il faut, dit l'abbé, que vos vœux s'accomplissent, digne Franklin, ou plutôt, permettez-moi de le dire, « digne Tan, malgré l'ancienneté de ce titre. Les vœux sont des nœuds qui nous lient au ciel. Ce sont les cordes qui attachent la victime à l'autel, et ils doivent par conséquent, je le répète, être accomplis, à moins que notre sainte mère l'Église n'ordonne le contraire. Quant à la langue, j'aime à converser dans celle que parlait ma respectable grand-mère, Hilda de Middleham, qui mourut en odeur de sainteté, et qui égalait presque, si j'ose le dire, sa glorieuse homonyme, la bienheureuse Hilda de Whitby. Que Dieu protège son âme !» Lorsque le prieur eut achevé ce qu'il considérait comme un avant-propos conciliateur, son compagnon dit brièvement et avec emphase « Je parle toujours français, la langue du roi Richard et de ses nobles, mais je comprends assez l'anglais pour communiquer avec les indigènes. » Cédric lança à l'interlocuteur un de ces regards rapides et courroucés que manquaient rarement de susciter les comparaisons faites entre les deux nations rivales. Mais, se rappelant les devoirs de l'hospitalité, il réprima toute marque extérieure de colère, et de la main, il désigna à ses hôtes leur place, un peu plus bas que la sienne, mais tout à ses côtés, et donna le signal d'apporter sur la table le repas du soir. Tandis que les serviteurs s'empressaient d'obéir aux ordres du maître, celui-ci aperçut Goethe, le porcher, qui, avec son compagnon Wamba, venait d'entrer dans la salle. « Envoyez ces fainéants par ici !» cria le Saxon avec impatience. Et lorsque les coupables furent devant lui, « Comment se fait-il, coquin ? » leur dit-il, « que vous ayez tant tardé. As-tu ramené ton troupeau à la maison, maître Goethe, ou l'as-tu abandonné aux bandits et aux maraudeurs ?»« Le troupeau est en sûreté, s'il vous plaît, » dit Goethe. « Mais il ne me plaît pas, mauvais drôle, » dit Cédric, « qu'on me laisse 2 heures en suspens et que je me creuse la tête à inventer des vengeances contre mes voisins pour des méfaits qu'ils n'ont pas commis. Je te le dis. » « Je te préviens qu'à la première faute de ce genre, je te punirai de la prison et des fers. » Goethe, qui connaissait le caractère irascible de son maître, n'essaya pas même de se disculper. mais le bouffon, qui savait qu'en vertu de ses privilèges de fou, il pouvait se prévaloir de la tolérance de Cédric, répondit d'un ton doux. « En vérité, oncle Cédric, vous n'êtes ni sage ni raisonnable ce soir. »«
Prenez garde, » dit son maître. « Si vous accordez tant de licence à votre langue, on vous enverra à la loge du gardien, qui vous donnera les étrivières. »
« D'abord, je voudrais que votre sagesse m'apprît, » dit Wamba, « s'il est juste et raisonnable qu'une personne soit punie pour la faute d'un autre. »
« Non, certes, bouffon, » répondit Cédric.
« Alors, pourquoi voulez-vous mettre ce pauvre garçon au fer, mon oncle, pour la faute de son chien Fangs ? Car je puis jurer que nous n'avons pas perdu une minute en route après avoir réuni notre troupeau. Ce que Fank n'avait pas encore accompli au moment où nous entendîmes la cloche des vêpres.
« Alors que Fank se soit pendu !»
dit Cédric en se tournant brusquement vers le porcher.
« Si c'est sa faute, et toi, cherche un autre chien. »«
Permettez, mon oncle, » dit le bouffon. « Ce serait passé à côté de la justice, car ce n'est pas la faute de Fank s'il est boiteux et s'il n'a pu rassembler le troupeau. » Mais bien la faute de ceux qui lui ont coupé les griffes des pattes de devant, opération à laquelle, à coup sûr, si on l'eût consulté, la pauvre bête n'eût certes pas donné sa voix.
Qui donc a osé estropier un animal appartenant à mon cerf ?
S'écria le Saxon enflammé de colère.
Ma foi, c'est le vieux Hubert, dit Wamba, le garde-chasse de ce Philippe de Malvoisin. Il a surpris Fangs rôdant dans la forêt, et il a prétendu que cette bête chassait le daim aux dépens de son maître, qui a la surveillance des bois de cette contrée.
« Que le diable emporte Malvoisin et son garde avec lui !» s'écria le Saxon.
« Je leur apprendrai que le bois est libre depuis la grande charte forestière. Mais en voilà assez. Retire-toi, drôle. Et toi, Gert, procure-toi un autre chien. » Et si le garde-chasse ose le toucher, j'en ferai un triste archer. Car qu'on me traite de lâche maudit si je ne lui coupe pas l'index de la main droite, et jamais plus il ne tirera de l'arc.
Je vous demande pardon, mes dignes convives. Je suis entouré ici de voisins qui valent bien vos infidèles de la Terre Sainte, messire chevalier. Mais vous avez devant vous un modeste repas. Mangez, et que le bon accueil compense la mauvaise chair. Cependant, le repas étalé sur la table n'avait pas besoin d'excuses de la part du maître de la maison. De la chair de porc, apprêtée de plusieurs manières, apparaissait sur la partie basse de la table. Sur la partie haute, on voyait de la volaille, du daim, du chevreuil, des lièvres et toute espèce de poisson, accompagné de pain massif, de galettes et de différentes confitures faites de fruits et de miel. Quant au menu gibier, c'est-à-dire aux petits oiseaux sauvages, qui étaient là en profusion, on ne les servit pas sur des plats, mais en brochettes, et on les fit offrir par des pages ou des domestiques qui les présentaient tour à tour à chaque convive, lesquels en coupaient à la brochette la quantité qui leur convenait. Chaque personne de distinction avait à côté d'elle un gobelet d'argent. Sur la table basse étaient rangées de grandes cornes en guise de coupe. Au moment de commencer le repas, le majordome, levant sa baguette, s'écria tout à coup.
« Arrêtez ! Place pour Lady Rowena !»
Une porte latérale à l'extrémité de la salle s'ouvrit alors derrière la table et Rowena, accompagnée de quatre suivantes, entra dans l'appartement. Cédric, bien qu'étonné, et peut-être d'une manière assez peu agréable, en voyant sa pupille se montrer en public en cette circonstance, s'empressa d'aller au-devant d'elle, de la conduire avec un respect cérémonieux au siège élevé placé à sa droite et destiné à la maîtresse de maison. Tout le monde se leva pour la recevoir, et, répondant à la courtoisie des convives par un salut muet, Lady Rowena s'avança avec grâce pour occuper sa place à table. Mais, avant qu'elle en eût eu le temps, Boisguilbert dit au prieur.
« Je ne porterai pas votre collier d'or au tournoi. Le vin de Quillot est à vous. »«
Ne l'avais-je pas dit ?»
répondit le prieur. « Mais modérez votre admiration, le Franklin vous observe. »
Sans faire attention à cet avertissement, et habitué à ne suivre que l'impulsion immédiate de ses désirs, Brillante de Boisguilbert tint ses yeux fixés sur la beauté saxonne, qui frappait surtout son imagination par la différence qu'elle offrait avec celle des sultanes orientales. Douée des plus belles proportions de son sexe, Rowena était grande, sans cependant l'être assez pour attirer une observation sur sa haute taille. Son teint était d'une blancheur exquise, mais le moule splendide dans lequel avait été jetée sa tête et ses traits bannissait jusqu'à l'idée même de cette fadeur qui quelquefois s'attache aux femmes blondes. Son œil bleu et clair, qui brillait sous un sourcil brun d'une courbe charmante, assez marqué pour prêter de la noblesse au front, semblait à la fois avoir la faculté de faire naître l'admiration et l'amour, et avoir reçu le double privilège de commander et d'implorer. Si la douceur formait le caractère distinctif de ses traits, il était évident qu'en cette occasion, l'exercice d'une autorité continuelle et l'habitude des hommages avaient donné à la jeune Saxonne une teinte de fierté qui avait, en la raffermissant, modifié son caractère primitif. Sa chevelure luxuriante, d'une nuance entre le brun et le blond, était partagée d'une manière gracieuse et élégante en nombreuses boucles où l'art avait assisté la nature. Ces boucles, parsemées de pierres précieuses et développées dans toute leur longueur, dénotaient la noble aisance et la libre condition de la jeune fille. Une chaîne d'or, à laquelle était suspendu un petit reliquaire du même métal, était passée autour de son cou. Elle portait des bracelets sur ses bras nus. Sa toilette se composait d'une robe de dessous et d'une jaquette de soie vert de mer pâle, par-dessus laquelle était passée une longue robe flottante qui descendait jusqu'à terre, avec de larges manches qui s'étendaient à peine au-delà du coude. Cette robe était cramoisie et faite de la plus belle laine. Un voile de soie et d'or, attaché à la partie supérieure de la robe, pouvait à volonté être ramené sur le visage et le sein, selon la mode espagnole, ou disposé de manière à parer seulement les épaules. Lorsque Rowena s'aperçut que les yeux du chevalier du temple étaient fixés sur elle avec une ardeur qui, sous la sombre arcade où ils se mouvaient enchâssés, leur donnait l'aspect de deux charbons ardents, elle tira avec dignité le voile sur son visage, donnant à connaître par là au templier que la hardiesse de son regard lui déplaisait. Cédric vit le mouvement et en comprit la cause.
« Messire Templier, dit-il, les joues de nos jeunes filles saxonnes n'ont pas été assez exposées au soleil pour pouvoir soutenir le regard d'un croisé. »
« Si j'ai commis une offense, répliqua Boisguilbert, je vous demande pardon, c'est-à-dire je demande pardon à Lady Rowena, car mon humilité ne saurait aller plus loin. »
« Lady Rowena, dit le prieur, nous a punis tous en châtiant la hardiesse de mon ami. Espérons qu'elle sera moins cruelle envers la splendide assemblée qui doit se réunir au tournoi. »
« Il n'est pas certain, dit Cédric, que nous y allions. Je n'aime pas ces vanités, qui étaient inconnues à nos pères lorsque l'Angleterre était libre. »
« Espérons toutefois, dit le prieur, que notre société vous déterminera à en faire le voyage. Quand les routes sont si dangereuses, l'escorte du chevalier brillant de Boisguilbert n'est pas à dédaigner. »
« Révérend prieur, dit le Saxon, partout où j'ai voyagé dans ce pays, j'ai trouvé jusqu'ici que je n'avais nullement besoin d'autre secours que celui de ma bonne épée et de mes fidèles serviteurs. À présent, si nous allons, en effet, à Asby de la Zouche, nous le ferons avec mon noble voisin et compatriote,
Athelstan de Königsbourg, et avec un cortège suffisant pour défier les outlaws et les barons ennemis.
« Je bois à vous, révérend prieur, cette coupe de vin que je recommande à votre appréciation, et je vous remercie de votre politesse. Si, cependant, vous suivez si rigidement les règles monastiques, ajouta-t-il, que vous préfériez une boisson de lait aigre à ce vin, ne faites pas violence à votre politesse pour me rendre raison.
« Non, dit le moine en riant, c'est seulement dans notre abbaye que nous nous imposons le lac Dulce ou le lac Aquidum. Quand nous fréquentons le monde, nous adoptons ses usages, et par conséquent, je réponds à votre toast avec ce bon vin. Et je laisse la liqueur plus faible à mon frère lait.
Et moi, dit le Templier, je bois à la belle Rowena, car depuis que son homonyme a introduit son nom en Angleterre, il n'y a jamais eu de beauté plus digne d'un pareil tribut. Par ma foi, je pardonne au malheureux Vortigern d'avoir fait faire naufrage à son honneur et à son royaume, pour peu qu'il ait eu pour cela la moitié autant de motifs que nous en admirons en ce moment.
Je n'abuserai pas de votre politesse, messire chevalier, dit avec dignité Lady Rowena sans se dévoiler. Ou plutôt, je la mettrai à contribution pour vous demander les dernières nouvelles de la Palestine, sujet de conversation bien plus agréable à nos oreilles saxonnes que ces compliments que vous inspire votre courtoisie française.
J'ai peu de choses importantes à vous apprendre, madame, répondit Brillant de Bois-Guilbert, si ce n'est la nouvelle déjà confirmée d'une trêve entre les croisés et Saladin.
Il fut interrompu par Wamba, qui avait pris sa place habituelle sur une chaise dont le dossier était surmonté de deux oreilles d'âne, et qui se trouvait placé à deux pas derrière le siège de son maître, lequel, de temps à autre, lui servait des mets de sa propre assiette, faveur que le bouffon partageait avec les chiens favoris, dont plusieurs, ainsi que nous l'avons dit, se trouvaient dans la salle. Wamba était assis, ayant devant lui une petite table, et tenant ses talons ramenés sur le bâton de sa chaise. Ses joues creusées donnaient à sa mâchoire l'apparence d'un casse-noisette, et ses yeux à demi fermés épiaient sans cesse chaque occasion d'exercer sa licence moqueuse.
« Ces trêves avec les infidèles ? » s'écria-t-il, sans s'inquiéter de la manière abrupte dont il interrompait l'altier templier. « Me vieillissent singulièrement. »
« Comment cela, drôle ? » s'écria Cédric, dont les traits épanouis accueillaient déjà favorablement la raillerie prévue.
« Et parce que je me rappelle, dit Wamba, trois trêves conclues de mon temps, dont chacune devait durer 50 années. Or, suivant ce calcul, je devrais avoir au moins aujourd'hui 150 ans.
« Je vous garantis que vous ne mourrez pas de vieillesse, » dit le chevalier du Temple, reconnaissant alors son ami de la forêt. « Et je vous assure, contre toute espèce de mort, excepté la mort violente, si vous donnez à tous les voyageurs des renseignements pareils à ceux que vous avez donnés ce soir au prieur et à moi.
« Comment ? » dit Cédric. « Donner de fausses indications aux voyageurs ? Vous aurez le fouet, car vous êtes aussi astucieux que fou. »
« Je vous prie en grâce, mon oncle, répondit le bouffon, de permettre que pour cette fois ma folie vienne en aide à mon astuce. Je n'ai commis qu'une méprise entre ma main droite et ma main gauche, et celui qui a pris un fou pour son conseiller aurait pu en pardonner une plus grande. »
Ici, la conversation fut interrompue par l'entrée du valet de garde, qui annonça qu'un étranger était à la porte et demandait l'hospitalité.
« Qu'il entre, dit Cédric, quel qu'il soit, par une nuit orageuse comme celle-ci, les bêtes fauves même sont obligées de se réfugier près des animaux domestiques et de rechercher la protection de l'homme, leur ennemi mortel, pour échapper à la fureur des éléments. Qu'il soit pourvu à tous ses besoins. Veillez à cela, Oswald. »
et le majordome quitta la salle du banquet pour faire exécuter les ordres de son maître.
Chapitre 5. Oswald, en rentrant, dit à l'oreille de son maître « C'est un juif qui se nomme Isaac Djork. Est-il convenable que je le conduise dans cette salle ?»«
Que Gert fasse son office, Oswald, » dit Wamba avec son effronterie habituelle. « Le porcher sera un huissier tout trouvé pour le juif. »«
Sainte Vierge, » dit le prieur en se signant, « un juif incrédule. » Un juif admis en notre présence.
Un chien de juif, répéta le templier. Un chien de juif s'approchait d'un défenseur du Saint-Sépulcre.
Par ma foi, dit Wamba, et il me paraît que messieurs les templiers aiment l'héritage des juifs bien mieux que leur société.
Doucement, mes dignes hôtes, dit Cédric, il ne faut pas que mon hospitalité soit bornée par vos préventions. Si le ciel a enduré toute la nation de ces mécréants au cou serré pendant plus d'années que n'en saurait compter un laïc, nous pouvons bien, pendant quelques heures, endurer la présence d'un seul. Mais je n'oblige personne à converser ou à manger avec lui, qu'on lui donne une table et une portion à part. À moins, ajouta-t-il en souriant, que ces étrangers au turban ne veuillent l'admettre dans leur société.
Messire Franklin, répondit le templier.
Mes esclaves sarrasins sont de vrais musulmans, et il leur répugne autant qu'à tout chrétien d'avoir aucune communication avec un juif.
Par ma foi, dit Wamba, je ne saurais comprendre que les sectateurs de Mahomet et de Termagan aient un si grand avantage sur un peuple jadis élu de Dieu.
Il prendra place auprès de toi, Wamba, dit Cédric. « Le fou et le fripon seront admirablement ensemble. »«
Le fou ?» répondit Wamba en montrant le reste d'un quartier de l'art.
« Saura bien dresser un rempart contre le fripon. »«
Chut !» dit Cédric, « car le voici. »
Présenté avec peu de cérémonie et s'avançant avec crainte et hésitation, en multipliant des saluts d'une profonde humilité, un grand et mince vieillard, qui cependant avait perdu une grande partie de sa taille naturelle par l'habitude de se baisser, s'avança vers le bas bout de la table. Ses traits, fins et réguliers, son nez aquilin, ses yeux noirs et pénétrants, son front haut et ridé, sa longue chevelure, sa longue barbe grise, auraient pu passer pour beaux s'ils n'eussent été les indices d'une physionomie particulière à une race, qui, pendant ces siècles barbares, était également détestée par la plèbe crédule et superstitieuse et persécutée par la noblesse rapace, et qui, en conséquence peut-être de cette haine et de cette persécution, avait adopté un caractère national à la fois vil et repoussant. Le costume du juif, costume qui paraissait avoir beaucoup souffert de l'orage, était un manteau à plusieurs plis, fait de drap grossier et sous lequel on pouvait distinguer une tunique couleur pourpre foncé. Il portait de larges bottes garnies de fourrure et une ceinture autour de la taille. Cette ceinture soutenait un petit couteau et un étui contenant tout ce qu'il fallait pour écrire, mais il n'avait aucune espèce d'arme. Il était coiffé d'un bonnet jaune, long et carré, d'une mode singulière et assigné à sa nation pour distinguer les Israélites des chrétiens, et qu'il ôta avec beaucoup d'humilité à la porte de la salle. L'accueil fait au nouvel arrivant dans la salle de Cédric le Saxon aurait pu satisfaire le plus sanglant ennemi des tribus d'Israël. Cédric lui-même ne secoua que froidement la tête en réponse aux salutations réitérées du juif, et lui fit signe de se placer au bas bout de la table, où toutefois personne ne se dérangea pour lui faire place. Au contraire, au fur et à mesure qu'il passait derrière les convives, en jetant un regard timide et suppliant, se tournant vers chacun de ceux qui occupaient l'extrémité de la table, les domestiques saxons carraient leurs épaules et continuaient à dévorer leur souper avec acharnement et sans faire la moindre attention aux besoins de leur nouvel hôte. Les serviteurs de l'abbé se signèrent en prenant des airs de pieuse horreur, et les paysans sarrasins eux-mêmes, à l'approche d'Isaac, tirèrent leurs poignards, comme s'ils étaient résolus à se garantir, par les moyens les plus désespérés, de la pollution dont les menaçait son contact. Il est probable que les mêmes motifs qui engageaient Cédric à ouvrir les portes de sa maison à ce fils d'un peuple répudié, l'eussent aussi engagé à exiger de ses chiens qu'ils reçussent Isaac avec plus de courtoisie. Mais en ce moment, l'abbé l'avait attiré dans une discussion très intéressante sur l'éducation et le caractère de ses serviteurs saxons, discussion qu'il n'eût point voulu interrompre pour des choses bien autrement importantes que le souper d'un juif. Pendant qu'Isaac se tenait ainsi banni de la société présente comme son peuple l'est des nations, cherchant en vain un regard bienveillant ou un siège pour s'asseoir, le pèlerin qui était près de la cheminée en eut compassion et lui céda sa place en disant « Vieillard, mes vêtements sont secs, ma faim est apaisée, mais toi, tu es mouillé et tu as faim. » Et en même temps, il rassemblait les tisons et ravivait le feu qui était épars sur l'âtre. Puis il prit sur la grande table une portion de soupe et de chevreau bouilli, la plaça sur la petite table où il avait soupé lui-même, et sans attendre les remerciements du juif, il alla à l'autre bout de la salle. Soit qu'il ne voulût pas communiquer davantage avec l'objet de sa bienveillance, soit qu'il voulût se rapprocher de la partie supérieure de la table. S'il y eût eu dans ces jours-là des peintres capables d'exécuter un pareil tableau, le juif, courbant son corps amaigri et étendant vers le feu ses mains glacées et tremblantes, aurait pu passer pour l'emblème qui personnifie l'hiver. Enfin, le froid étant vaincu, il se retourna avidement vers la portion fumante qui était placée devant lui et se mit à manger avec une précipitation et un plaisir manifeste qui semblait annoncer une longue abstinence de toute nourriture. Pendant ce temps-là, le prieur et Cédric continuaient à discourir sur la chasse. Lady Rowena semblait se livrer à la conversation avec une de ses suivantes, et le fier templier, dont l'œil errait du juif à la belle saxonne, roulait dans son esprit des pensées qui paraissaient l'intéresser vivement. « Je suis étonné, digne Cédric, » dit le prieur continuant la conversation, « que, en dépit de vos grandes préférences pour votre langue virile, vous n'adoptiez pas la langue franco-normande pour ce qui concerne au moins les termes relatifs à la chasse et aux forêts. Certainement, il n'y a pas de langue aussi riche dans la phraséologie variée que les exercices champêtres exigent ou qui fournissent autant de moyens aux forestiers expérimentés pour exprimer son art joyeux. « Bon prieur et mère, » dit le Saxon, « sachez que je ne me soucie pas des raffinements d'outre-mer, sans le secours desquels je puis très bien me recréer dans les bois. Je puis sonner du cor sans appeler mon coup de langue, soit une réveillée, soit une mort. Je puis encourager mes chiens à la poursuite de la bête. Je puis écorcher la bête et la mettre en quatre lorsqu'elle est abattue, sans employer le nouveau jargon de « curé », d'arbor, de nomble, non plus que tout le caquet du fabuleux sire Tristrem. Le français, dit le templier, élevant la voix avec ce ton présomptueux et dominateur qu'il employait en toute occasion, est non seulement la langue naturelle de la chasse, mais celle de l'amour et de la guerre, la langue avec laquelle on séduit les femmes et l'on défie ses ennemis. « Faites-moi raison d'une coupe de vin, chevalier Boisguibert, » dit Cédric, « et versez-en une autre au prieur, tandis que je passe en revue les 30 dernières années de ma vie pour vous conter une histoire. » Tel que Cédric le Saxon était à 30 ans, il n'avait pas besoin de tout ce clinquant du troubadour français pour se recommander aux oreilles de la beauté, et le champ de bataille de Northallerton, au jour où le Saint-Étendard fut déployé, pourrait dire si le cri de guerre saxon ne fut pas entendu aussi avant dans les rangs de l'armée écossaise que celui du plus hardi baron normand. À la mémoire des braves qui y combattirent, faites-moi raison, mes hôtes. Il but à large coup et continua avec une chaleur croissante. Oui, c'était là un jour de bouclier brisé, lorsque 100 bannières se courbèrent sur les têtes des braves, que le sang coula comme de l'eau et que la mort fut préférée à la fuite. Un barde saxon l'eût appelé le festin des épées, le rassemblement des aigles autour de leur proie, le retentissement des masses d'armes sur les cuirasses, le heurtement de la bataille, plus joyeux que les hurrahs d'une noce. « Mais nos bardes ne sont plus, » dit-il. « Nos faits d'armes sont engloutis dans ceux d'une autre race. Notre langue, notre nom même, sont près de disparaître, et personne n'emporte le deuil qu'un vieillard solitaire. » Et chanson, remplis les vers. « À ceux qui sont forts dans les armes, messieurs les chevaliers, quelle que soit leur race et leur langue, à ceux qui se comportent le mieux dans la Palestine parmi les champions de la croix. » Il ne sied pas à celui qui porte cet emblème de répondre, dit Boisguibert. Cependant, à qui, si ce n'est au champion juré du Saint-Sépulcre, peut-on assigner la palme parmi les chevaliers de la croix? Au chevalier hospitalier, dit le prieur, j'ai un frère dans leur ordre. Je ne déprécie pas leur renommée, dit le templier. Néanmoins, « il me semble, ami Cédric, » dit Wamba, interrompant le moine soldat, « que si Richard Cœur de Lion avait eu assez de sagesse pour prendre la vie d'un fou, il aurait pu rester chez lui avec ses joyeux Anglais, en laissant la délivrance de Jérusalem à ses chevaliers, qui y étaient le plus intéressés. » « N'y avait-il donc dans l'armée anglaise, » dit Lady Rowena, « personne dont le nom soit digne d'être cité près de ceux des chevaliers du Temple et de Saint-Jean ?»« Pardonnez-moi, madame, » répliqua Boisguibert. « Le monarque anglais avait en effet conduit en Palestine une troupe de vaillants guerriers qui ne le cédaient qu'à ceux dont les poitrines ont constamment servi de rempart à cette terre fortunée. »« Qui ne le cédait à personne ?» s'écria le pèlerin, qui s'était tenu assez près d'eux pour les entendre et qui avait écouté cette conversation avec une impatience visible. Tous les yeux se dirigèrent vers l'endroit d'où partait cette affirmation inattendue. « J'atteste, » répéta le pèlerin d'une voix ferme et haute, « que les chevaliers anglais ne le cédaient à aucun de ceux qui tirèrent l'épée pour la défense de la Terre Sainte. Je maintiens en outre, car je l'ai vu, que le roi Richard lui-même et 5 de ses chevaliers tinrent un tournoi après la prise de Saint-Jean d'Acre, portant défi à tout venant. Je maintiens que ce jour-là, chaque tenant fit 3 courses et renversa 3 adversaires. J'ajoute que 7 d'entre les assaillants étaient des chevaliers du Temple et que Messire Brillant de Boisguibert sait bien la vérité de ce que je vous dis. Il est impossible à la langue humaine de décrire l'expression amère de rage qui rendit plus sombre encore le sombre visage du templier. Dans l'excès de son ressentiment et de sa confusion, ses doigts fiévreux saisirent instinctivement la garde de son épée, et peut-être ne l'eussent-ils point lâchée sans la conscience qu'une action violente ne pouvait s'accomplir impunément en la présence et dans la maison de Cédric. Celui-ci, dont les sentiments toujours droits et loyaux étaient rarement occupés de plus d'un objet à la fois, oubliait, dans la joie qu'il éprouvait d'entendre exalter la gloire de ses compatriotes, de remarquer la rageuse confusion de son hôte. « Je te donnerai ce bracelet, pèlerin, » dit-il, « si tu peux me citer les noms de ces chevaliers qui maintinrent si galamment la renommée de notre joyeuse Angleterre. » « Je le ferai avec plaisir, » répondit le pèlerin, « et sans récompense, car un serment me défend, avec quelque temps d'ici, de toucher de l'or. » Eh bien, je porterai le bracelet pour vous, si vous le voulez, ami pèlerin, dit Wamba.
Le premier de tous, en renommée comme en dignité, dit le pèlerin, était le brave Richard, roi d'Angleterre.
Je lui pardonne, dit Cédric, je lui pardonne de descendre du tyran le duc Guillaume.
Le second, continua le pèlerin, c'était le comte de Leicester, Sir Thomas Multon de Gisland était le troisième.
Celui-là, du moins, dit Cédric avec exaltation, est un vrai Saxon.
Sir Fulke d'Oy était le quatrième, ajouta le pèlerin.
Saxon encore, du moins du côté de sa mère, s'écria Cédric, qui écoutait avec la plus vive attention, et qui oubliait, du moins en partie, sa haine contre les Normands, dans le triomphe commun du roi Richard et de ses insulaires.
Le cinquième était Sir Edwin Turnham.
Un vrai Saxon, par l'âme d'Angist, s'écria Cédric.
Et le sixième, continua-t-il avec vivacité. Comment nommez-vous le sixième?
Le sixième, dit le pèlerin avec hésitation et paraissant se recueillir, était un jeune chevalier dont la renommée était moindre et le sang inférieur, admis dans cette honorable compagnie pour faire le sixième plutôt que pour aider à l'entreprise. J'ai oublié son nom.
« Messire pèlerin, dit dédaigneusement Brillant de Bois Guibert, cet oubli affecté, après vous être souvenu de tant de choses, arrive trop tard pour vous être utile. Je veux moi-même citer le nom du chevalier devant la lance duquel, et par la faute de mon cheval, j'ai été désarçonné. C'était le chevalier Ivanhoé, et parmi les six, il n'y en avait pas un qui, pour son âge, eut plus de renommée guerrière. Cependant, je veux dire et affirmer ceci, que s'il était en Angleterre et qu'il osa renouveler dans le prochain tournoi son défi de Saint-Jean d'Acre, moi, monté et armé comme je le suis maintenant, je lui donnerai tous les avantages des armes, et j'attendrai le résultat.
Votre cartel recevrait une prompte réponse, dit le pèlerin, si votre antagoniste était là. Mais la chose étant comme elle est, ne troublez pas la paix de cette salle avec des bravades sur l'issue d'un combat qui, vous le savez bien, ne peut avoir lieu. Si jamais Ivanhoé revient de Palestine, je me porte caution qu'il se mesurera avec vous.
Bonne caution, répondit le chevalier du Temple. Et que proposez-vous pour gage?
Ce reliquaire, qui contient un fragment de la vraie croix, rapporté du monastère du Mont Carmel, dit le pèlerin en tirant de sa poitrine une petite boîte d'ivoire et en se signant. Le prieur de Jorvaux se signa aussi et dit un paternoster auquel tous les assistants se joignirent avec dévotion, à l'exception du juif, des sarrasins et du templier. Ce dernier, sans lever son bonnet et sans témoigner aucun respect pour la sainteté du reliquaire, tira de son cou une chaîne d'or qu'il jeta sur la table en disant « Que le prieur Aymer garde mon gage et celui d'un vagabond inconnu, en assurance que, si le chevalier Ivanhoé revient sur le sol qu'enferment les quatre mers de la Bretagne, il est à relever le défi de Brillant de Bois Guibert, et que, s'il n'y répond pas, je le proclamerai lâche sur les murailles de toutes les commanderies des Templiers de l'Europe. »
Il n'en sera pas besoin, dit Lady Rowena, rompant le silence qu'elle avait gardé jusque-là. Et si nul autre dans cette salle n'élève la voix pour soutenir Ivanhoé absent, la mienne sera entendue. J'affirme qu'il ira bravement à la rencontre de tout défi honorable. Si ma faible caution pouvait ajouter quelque sécurité au gage inestimable de ce vieux pèlerin, je risquerais nom et renommée sur cette certitude qu'Ivanhoé offrira la rencontre qu'il désire à ce fier chevalier.
Une foule de sentiments opposés paraissait s'être emparée de Cédric et lui imposait le silence. L'orgueil satisfait, le ressentiment, l'embarras se succédèrent tour à tour sur son front large et passionné, pareils à l'ombre de nuages qui passent sur un champ de blé, tandis que ses serviteurs, sur lesquels le nom du sixième chevalier semblait produire un effet presque magique, se tenaient suspendus au regard de leur maître. Mais lorsque Lady Rowena eut parlé, le son de sa voix arracha Cédric au silence. « Madame, dit-il, ce langage n'est pas convenable. Si un autre gage était nécessaire, moi-même, offensé et justement offensé comme je le suis, j'engagerai mon honneur pour celui d'Ivanhoé. Mais l'enjeu du combat est complet, même selon les modes étrangères de la chevalerie normande. N'en est-il pas ainsi, prieur Eymer ?
Oui, répliqua le prieur, et je déposerai en sûreté dans le trésor de notre couvent cette précieuse relique et cette riche chaîne jusqu'à la décision de ce cartel de guerre. »
Ayant ainsi parlé, il se signa à plusieurs reprises, et après maintes génuflexions et prières murmurées, il délivra le reliquaire au frère Ambroise, c'est-à-dire au moine qui l'accompagnait, tandis que lui-même ramassait, avec moins de cérémonie, mais peut-être avec une satisfaction intérieure tout aussi grande, la chaîne d'or, et la serrait dans une petite poche doublée en cuir parfumé qui s'ouvrait sous son bras.
Et maintenant, messire Cédric, dit-il, que les vêpres me tintent dans les oreilles, grâce à la force de votre bon vin. Souffrez que nous portions un dernier toast au bonheur de Lady Rowena, et permettez-nous ensuite de nous retirer dans nos appartements.
Par la croix de bonhomme, reprit le Saxon, vous ne faites pas grand honneur à votre renommée, mon révérend prieur. La renommée vous proclame un moine jovial, qui a l'habitude d'entendre sonner matine avant de quitter son verre. Et, tout vieux que je suis, je craignais d'avoir à rougir en vous rencontrant. Mais, par ma foi, de mon temps, un garçon saxon de 12 ans n'eût pas sitôt abandonné son gobelet.
Cependant, le prieur avait ses raisons pour persévérer dans le système de tempérance qu'il avait adopté. Non seulement il était un conciliateur par sa profession, mais encore, dans la pratique, il haïssait toutes les disputes et tous les différends. Cela ne provenait pas absolument de son amour pour son prochain ou de sa prévoyance pour sa sûreté personnelle, mais d'une fusion de ces deux sentiments. En cette occasion, il éprouvait une crainte instinctive, inspirée par la connaissance qu'il avait du caractère impétueux du Saxon, et il prévit le danger que l'esprit insouciant et présomptueux, dont son compagnon le Templier avait ce soir-là fourni tant de preuves, ne produisît quelque éclat malencontreux contre eux. Il insinua donc doucement que les habitants de toute autre contrée étaient incapables de tenir tête dans la lutte de vers avec les hardis Saxons aux fortes têtes. Il fit une légère allusion à la sainteté de son caractère et finit en renouvelant sa proposition de se retirer. On servit par conséquent le vin de l'adieu, et les convives, après avoir fait une profonde révérence à leur hôte et à Lady Rowena, se levèrent et se mêlèrent les uns aux autres, tandis que les chefs de la famille se retiraient avec leurs serviteurs par les différentes portes.
« Chien de mécréant !»
dit le Templier au juif Isaac au moment où il passait près de lui dans la foule.
« Est-ce que par hasard tu te rendrais au tournoi ?»«
J'ai cette intention, » répondit Isaac avec le plus humble salut, « si la chose est agréable à votre pieuse valeur. »«
Oui, » dit le chevalier. Pour ronger les entrailles de nos nobles par l'usure, et pour tromper nos femmes et nos enfants avec des joyaux et des babioles. Je jurerais qu'il y a bon nombre de sequins dans ce sac.
Pas un sequin, pas un penny d'argent, pas un sou. Puisse le Dieu d'Abraham me secourir. dit le juif se tordant les mains. « Je n'y vais que pour réclamer le secours de certains frères de ma tribu, pour m'aider à payer l'amende que l'échiquier des Juifs m'a imposée. Père Jacob, soutiens-moi, je suis un malheureux homme ruiné. La houppelande que je porte a été empruntée à Reuben de Tadcaster. » Le templier sourit sous cape à cette réplique. « Sois maudit, menteur au cœur faux, » dit-il. Et, continuant son chemin comme s'il eût dédaigné d'en dire davantage, il marmotta quelques mots avec ses esclaves sarrasins dans une langue inconnue aux assistants. Le pauvre Israélite paraissait si troublé par l'apostrophe du moine guerrier que le templier avait regagné l'autre extrémité de la salle avant qu'il osât relever sa tête humblement inclinée. Et lorsque, enfin, il se hasarda de regarder, ce fut avec la stupeur d'un homme au pied duquel la foudre vient de tomber et qui entend encore le bruit terrible qui gronde à ses oreilles. Le templier et le prieur furent conduits presque immédiatement à leur chambre à coucher par le majordome et les chansons, chacun accompagné de deux porteurs de torches et de deux domestiques munis de viandes et de vin, tandis que des domestiques d'une condition inférieure montraient à leur suite et au reste des hôtes leurs dortoirs respectifs.